Bienvenue à la série Le Monde Change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici, des proches qui témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Au début du chapitre sur la communauté autochtone et métisse aux îles dans la série Le Monde Change, j'écrivais sur papier « L'histoire est plurielle ». L'histoire de plusieurs nations, celle des colonisateurs, l'histoire des vainqueurs, l'histoire acadienne, les autochtones et métisses et finalement celle des Noirs, dont nous entendrons parler davantage au Canada dans les prochaines années. En 2022, les références et les appartenances changent. Des doutes sur la validité de nos enseignements sont clairement émis et parfois bien fondés. Il peut être aussi ardu d'émettre des affirmations publiques puisque celles-ci peuvent être vite invalidées. Aussi parce que dans le cas d'une communauté autochtone et métisse sur notre territoire, un rassemblement est à faire et doit passer le test de l'approbation ou la légitimité sociale. J'ai rencontré des dizaines de personnes, mais très peu ont voulu dire, témoigner ou raconter leur histoire. Ils disaient éprouver une gêne ou un malaise. D'autres m'ont dit ne pas vouloir s'inscrire dans ce mouvement parce qu'ils voyaient une appropriation culturelle ou une forme d'opportunisme afin d'obtenir des gains. Être acadien et autochtone à la fois sur l'archipel est peut-être un enjeu. Les droits et privilèges si durement acquis au prix d'efforts colossaux de génération en génération pour assurer la subsistance du peuple acadien sur les îles ne seront pas partagés si aisément par simple affiliation. J'ai rencontré le Malino Raphaël Turbide, passionné d'histoire, qui nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours écrite avec des buts honorables.
L'écriture des vainqueurs a voulu occulter la réalité des vaincus. Dans l'histoire autochtone au Canada, c'est vraiment une réalité tout à fait observable. Et quand je dis au Canada, c'est ça, c'est à la grandeur. Le Canada s'est construit sur l'oppression des Premières Nations, des peuples autochtones, mais en même temps avec des nuances et des particularités vraiment importantes à souligner de région en région. L'histoire de l'Ouest, par exemple, et la conquête de l'Ouest, des fameuses guerres qui ont été menées contre les tribus Cree, par exemple, et les Métis. Ça, c'est tout un pan de l'histoire canadienne qui est vraiment fondamentale, mais que c'est pas la même chose qui s'est passé dans l'Est.
Dans l'Est, justement, les fameux Mi'kmaq étaient des côtiers. C'est eux qui ont attrapé la première salve des Européens. C'est eux qui ont dû affronter, et puis ceux des terres ont dû un peu l'avoir peut-être pas plus facile, mais moins difficile.
Il faut se rappeler qu'à l'époque, par exemple, de la découverte par Jacques Cartier, par exemple, de l'intérieur du Golfe et du fleuve Saint-Laurent, on a, oui, les Mi'kmaq qui sont les populations qui vivent donc tout sur le pourtour sud du Golfe, dans ce qui est aujourd'hui les provinces du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, et même, évidemment, le Québec avec la Gaspésie et les îles. Or, vous avez d'autres peuples autochtones qui fréquentent cet espace-là. Les frontières sont pas aussi délimitées que, mettons, dans l'imaginaire européen. Ce qui veut dire que vous avez, par exemple, les Iroquois du Saint-Laurent, la fameuse population-là qui est disparue quand Champlain est revenu 70 ans plus tard, mais qui était là au moment de Cartier et qui était là à Gaspé. Donc, ces gens-là partageaient la zone avec les Mi'kmaq. C'est difficile aujourd'hui, en 2022, d'évaluer jusqu'à quel point il y avait des amitiés ou c'était de la compétition. Mais toujours est-il qu'il y avait une présence donc de différents groupes. On parle des Iroquois, mais on parle aussi des Malécites, cette population-là qui, elle aussi, justement, vivait dans la région et c'était des populations nomades. Donc, la notion même de territoire et d'appartenance territoriale était très différente pour eux de ce que ça pouvait être pour les Européens. Mais une chose est certaine, ils étaient là et il y en avait donc des Autochtones qui étaient présents à cette époque-là.
La difficulté, elle n'est pas moindre quand on pense aux récits autochtones parce que il n'y a pas beaucoup d'écrits, c'est beaucoup de la transmission orale.
C'est beaucoup de la transmission orale et faut mesurer ce qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à appeler un génocide, mais certainement une tentative très violente de nettoyage ethnique. Là. On peut très bien s'entendre sur l'utilisation de ces termes-là, qui a été faite entre autres à l'époque des pensionnats autochtones, mais aussi depuis, je vous dirais, la mise en tutelle, la minorisation des Autochtones, entre autres par le gouvernement canadien. On a vraiment coupé la chaîne de transmission orale chez les Autochtones. Évidemment, ça a commencé déjà avec les grandes épidémies qui les ont décimés un peu de temps après l'arrivée des Européens. On évoquait les Iroquois du Saint-Laurent. C'est malheureusement probablement ça qui leur est arrivé. Et bien sûr, quand vous avez une population qui est décimée par les épidémies, bien, c'est sûr que la chaîne de transmission des histoires, des traditions est rompue. Et c'est d'autant plus triste qu'on réalise à quel point ces populations-là qui maîtrisaient la tradition orale, ben le faisaient d'une manière tout à fait remarquable. On a juste à penser à l'époque des traités dans l'Ouest, justement, où ce qu'on voyait les chefs autochtones toujours accompagnés d'individus qui avaient le mandat de se rappeler par cœur tout ce qui était dit dans les moindres détails, avec les moindres virgules et tout ça. Oui, oui. L'équivalent d'un contrat dûment signé, mais un contrat qui était donc préservé oralement et donc transmis oralement de génération en génération.
Très rigoureux comme transmission, là, et puis comme détail offert de la réalité de l'époque.
La parole qui est sacrée, et c'est vraiment une illustration forte de ce que ça pouvait être, justement, cette transmission orale-là, et sans dire que c'est infaillible. Mais encore là aussi, notre intérêt pour l'histoire, il est conditionné par notre culture européenne qui met beaucoup d'accent, justement, sur la transmission linéaire du temps, hein, sur les dates, de dire que de telle date à telle date, il s'est passé telle ou telle affaire. C'est une façon très européenne de concevoir l'histoire et qui est beaucoup axée sur le règne des rois, par exemple. Alors que dans une société nomade, par exemple, où justement vous n'avez pas des figures comme ça d'autorité, ben c'est sûr que le temps qui passe, lui, est conçu d'une manière souvent plus cyclique. Et ça, il y a beaucoup d'anthropologues qui ont fait ces observations-là auprès des peuples autochtones. La transmission de ce qui est important à transmettre, c'est pas nécessairement juste de se rappeler qu'en telle ou telle année, il s'est passé telle ou telle chose. C'est quand même, sans parler de choc des civilisations, qu'il y a eu quand même vraiment des incompréhensions très fortes entre les parties. Puis l'exemple le plus tragique de tout ça, c'est les Autochtones de Terre-Neuve. Hein, on a à penser aux Béotucs, qui sont une population d'Autochtones qui aujourd'hui sont disparus. Et la raison majeure pourquoi ces Autochtones-là sont disparus, c'est qu'il y a eu une incompréhension fondamentale entre eux et les pêcheurs européens, qui malheureusement ont rapidement tourné au conflit et même à la chasse à vue. Là, l'histoire des Béotucs, c'est vraiment là, un massacre gratuit qui a été perpétué dans une colonie Terre-Neuve qui n'était pas très contrôlée par le gouvernement. Donc, c'était vraiment là, une hostilité sans borne qui a malheureusement causé leur disparition. Mais ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Il faut le dire parce que, veux pas, Terre-Neuve, c'est proche de nous. Je pense que même s'il n'y avait pas nécessairement de Béotucs qui venaient ici aux îles, ben, ça fait partie de notre grande région des Maritimes.
Certains affirment d'ailleurs qu'ils auraient peut-être mis les pieds ici.
C'est pas impossible.
Absolument. Cela me fait penser à quelque chose. Présentement, on donne des cours dans la fonction publique pour meilleure compréhension des Amérindiens, des cours obligatoires. Et puis, dans ces cours-là, l'un des fonctionnaires me disait, on apprend vraiment, Michel, à mieux connaître leur façon de penser, leur façon de se tenir physiquement. Comme par exemple, on nous dit qu'un Amérindien qui va regarder vers le bas, non pas parce qu'il ne comprend pas ou parce qu'il se fout de ce qu'on lui dit, mais parce qu'il intègre comme ça l'information qu'on lui donne. C'est même à la limite une forme de respect envers nous. C'est des détails vraiment qui peuvent apparaître, bon, peut-être insignifiants, mais qui se cumulent à d'autres façons d'aborder la communication.
Et c'est passionnant de parler de ça parce que justement, ça nous montre à quel point la question de l'identité est importante et rend la distinction de ce qui est autochtone particulièrement riche et importante à faire parce que on est malheureusement souvent aussi les héritiers des préjugés qui viennent des générations précédentes, des préjugés qui viennent aussi de l'expérience que certaines personnes ont avec les Autochtones en temps réel aujourd'hui. C'est sûr que j'entends toutes sortes d'histoires, souvent contradictoires, sur le rapport que les Blancs ont avec les Autochtones sur la Côte-Nord. Des fois, c'est positif, des fois, c'est très négatif aussi. Et ça, bien souvent, ça vient de préjugés, justement, de préjugés qui sont entretenus par cette incompréhension fondamentale-là qui demeure encore. On s'est défini comme étant des Blancs, des Occidentaux, des gens qui font partie de la civilisation proprement dite. Alors que l'autre, bien, c'est un barbare. Hein? Ça revient au même vieux réflexe qu'on a hérité de l'Antiquité grecque. C'est l'idée de dire que tout ce qui est étranger à nous est nécessairement une menace et quelque chose qui n'a pas compris les vertus de la civilisation. des vieux réflexes mentaux qui souvent sont très handicapants parce que ça nous fait mal réagir. On a tout ce fossé-là qui s'est creusé avec le temps et qui doit être comblé en partie pour pouvoir établir une communication réelle.
Souvent, dans les études commandées par le gouvernement ou encore les autochtones, les réserves, les communautés, on va beaucoup joindre aux historiens des ethnologues et des anthropologues.
J'ai eu l'occasion, entre autres, quand j'étais à l'UQAM, de suivre le cours d'histoire autochtone avec Alain Beaulieu, qui est un des professeurs bien reconnus là, au Québec dans le domaine global de l'histoire des Autochtones. Il nous parlait déjà à ce moment-là du rôle essentiel des historiens dans le processus, je dirais, de réconciliation, oui, mais aussi justement dans toutes les causes judiciaires, entre autres. À quel point le fait, par exemple, dans l'Ouest canadien particulièrement, les historiens étaient sollicités pour faire la lumière sur les différentes revendications territoriales des Autochtones. Et ça, on le connaît moins dans l'Est parce que le fait de céder des territoires, ça n'a pas été géré par les fameux traités numérotés comme dans l'Ouest. Donc là, il y a toute une différence là-dessus, mais il y a des revendications territoriales dans l'Est aussi, des revendications de droits basées sur justement une considération que, par exemple, telle ou telle nation occupait tel ou tel territoire. Et ça, ben, c'est basé aussi sur des notions justement d'anthropologie, d'occupation différente du territoire de celle, par exemple, des critères occidentaux. Parce que même si vous aviez des peuples nomades, donc, qui ne possédaient et cultivaient pas des terrains spécifiques à tout moment de leur vie, ça reste quand même que c'est des terrains qu'ils occupaient et dont leurs ancêtres occupaient depuis plusieurs générations. Et s'ils sont capables de prouver ça, ben là, évidemment, ça amène énormément de crédibilité à leurs revendications. Et là-dedans, ben, bien sûr, les spécialistes en sciences sociales sont extrêmement importants. Parce que les sciences sociales, c'est dans ces domaines-là, en histoire, en anthropologie, en sociologie aussi, qu'on a permis de développer tout un appareillage conceptuel pour aller remettre en question les certitudes du droit, par exemple.
Dans la dizaine d'années là, qu'on vient de vivre, on a vu beaucoup d'Amérindiens, d'Autochtones très scolarisés, arriver blindés avec des dossiers très, très pertinents, très cohérents, bien appuyés sur des faits. Ce qu'on avait pas auparavant. Alors, l'accès aux études, aux hautes études, a permis une meilleure connaissance, de meilleurs appuis légaux aussi pour les communautés.
Une évolution remarquable, et c'est jusqu'à un certain point la revanche. Hein. On a juste à penser, par exemple, le cas des Acadiens qui reviennent à grand prix sur les sites de la déportation et qui peuvent proclamer haut et fort « on existe ». Ben, on s'entend-tu qu'avec les Autochtones, on a vraiment une situation similaire où les Autochtones se donnent les outils pour avancer dans leur dossier au point même où ce que on peut dire qu'ils ont vraiment là un momentum, hein, un momentum incroyable pour mettre de l'avant justement des revendications qui souvent sont très légitimes, mais qui ont besoin justement d'être portées par ces communautés-là. Il y a encore de toute façon le système légal, hein, législatif, la fameuse loi sur les Indiens qui vient encadrer ça d'une manière très archaïque et qui fait que, bon, c'est pas nécessairement des combats faciles, mais justement, les Autochtones aujourd'hui ont un accès, probablement aussi des mentors, des gens qui ont combattu très fortement pour qu'ils puissent faire leur place dans les universités puis aussi dans toutes les institutions. Ils commencent à récolter un peu les fruits et c'est quelque chose de très motivant. Je pense qu'aujourd'hui, justement, si l'identité autochtone est beaucoup plus in qu'elle n'a jamais été dans l'histoire du Canada et du Québec, c'est en partie parce qu'on a vraiment un dynamisme là, qui est observable. C'est pas juste une question de pouvoir bénéficier de droits, justement, de la loi sur les Indiens, puis d'être extrait aux impôts et autres contraintes qui viennent avec la citoyenneté normale, entre guillemets. C'est plus justement une question de dire qu'aujourd'hui, être un autochtone, c'est une identité dont on peut être fier, c'est le sentiment d'avoir eu à mener des combats pour la survie, hein, pour l'existence même, face à une volonté de se faire effacer. Cette fierté-là de pouvoir être encore là aujourd'hui.
On comprend pourquoi les Acadiens et les Autochtones se sont si bien entendus dès le départ.
Ils devraient continuer à bien s'entendre.
On en reparle après la pause, on revient immédiatement après.
Enfant des bois et de rivières, suivant les traces fief de son père. Le galopa encore blanc bec jusqu'à la côte de Bémalpec. Dans un canon couvert d'écorce, blotti dans une peau de morse, il prit le large vers les îles et y arriva après 100 000 vers leur cabane près de la côte. Montait la baie à marée haute. Là ils fumaient leurs provisions de loup marin et de poisson. Une boucane pâlissait l'air jusque dans le fond du Havre Aubert. Et dès l'automne, l'effroi venu, ils retournaient dans leur tribu. Chlaboy, dans une source du portage, quelqu'un t'a vu puiser de l'eau. Depuis ce temps, il y a bel âge, ton nom jaillit dans le ruisseau. Le vieux Micmac fut pris chez lui par le harpon du grand esprit. Chlaboy pleura et sans dire mot réembarqua dans son canon. On le revit dans le portage, traîner sur lui tous ses bagages, et s'en alla par les coteaux, droit vers la source et son cours d'eau. Dans les buissons de la savane, il mit le feu à sa cabane et se construit près de bassins un camp en bois rond de sapins. De loin les blancs le regardaient gosser ses flèches et ses filets, sans se douter qu'il écrivait l'histoire de la source où il buvait. Chlaboy, dans une source du portage, quelqu'un t'a vu puiser de l'eau. Depuis ce temps, il y a bel âge, ton nom jaillit.
Didier Turbide, avec l'une de ses compositions, La source à Chlaboy. On va y revenir un petit peu plus tard. Raphaël Turbide, différents éléments retrouvés attestent de la présence d'Amérindiens aux îles.
Les Micmacs, en fait, on est certain, selon, encore une fois, les critères historiques européens traditionnels, on est certain de leur présence parce que, évidemment, ils sont mentionnés dans des sources européennes. On a un témoignage merveilleux qui est celui du capitaine anglais Charles Lee, qui était venu ici aux îles à la fin du 16e siècle pour s'établir ici un camp de chasse et pêche sur l'archipel et qui a été repoussé, selon ses propres dires, par un groupe de pêcheurs bretons normands accompagnés d'environ 300 autochtones.
Oui.
Et là, ben, c'est intéressant parce que justement, c'est notre première source d'un témoin qui a écrit donc dans son journal, qui a donc mentionné officiellement la présence autochtone aux îles. Et là, ça nous pose toutes sortes de questions parce que 300, c'est beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment un groupe qui était là, ici aux îles, si on suit évidemment sur les dires du capitaine, parce que on peut s'imaginer qu'il a peut-être exagéré les nombres aussi pour justifier le fait qu'il n'a pas gagné son combat et qu'il a éventuellement pris la fuite, mais ça nous montre quand même qu'il y avait des Autochtones. C'est dur de remettre en question au moins ce fait-là. Et ce que ça nous dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a vraiment des groupes d'Autochtones qui viennent pêcher ici sur l'archipel, qui viennent chasser sur l'archipel. Et ça nous amène à la fameuse question de la chasse aux morses. On sait que les pêcheurs européens, quand ils sont arrivés ici, ils ne connaissaient pas le morse. Même à l'époque de Jacques Cartier, il décrit les bêtes qu'il voit à l'île Brillon d'une façon tout à fait spéciale, comme s'il n'avait jamais vu ce genre d'animal-là, et il parle de des monstres. Parce que c'était des animaux impressionnants, mais aussi parce que les Européens de l'époque ne connaissaient pas le morse, sauf les Scandinaves qui vivaient vraiment à la hauteur du cercle arctique et qui donc, eux, évidemment, n'avaient vu. Ce que ça voulait dire, les pêcheurs européens, les chasseurs européens ne savaient pas chasser le morse. Et il y a des fortes probabilités que l'expertise qu'ils ont fini par acquérir vienne des Autochtones. Le troupeau de morse des îles était particulièrement intéressant parce que c'était un troupeau qui était beaucoup plus accessible que le reste des troupeaux de morse un peu partout dans le golfe Saint-Laurent et sur le pourtour du golfe, ici aux îles, en fait, parce que les morses aussi étaient répartis sur des échouries, étaient sur les plages aussi. La fameuse technique de chasse qu'on a entendue, qui était celle de séparer le troupeau en deux, il y a des fortes chances que ça nous vienne des Autochtones, cet héritage-là. Ce que ça veut dire, c'est que les premiers chasseurs, pêcheurs qui venaient ici aux îles, c'est sûr qu'ils ont beaucoup bénéficié du savoir autochtone déjà présent. Les Micmacs, en fait, étaient les descendants probables d'Autochtones qui ont fréquenté l'archipel depuis des millénaires. On a quelques artefacts qui ont été trouvés un peu partout sur l'archipel et avec les datations, on peut voir, il y a de ça 2000 ans, 4000 ans, même certains parlent de 8000 ans, dès le retrait de la glaciation, qu'il y aurait eu des Autochtones ici aux îles. On peut s'imaginer que ces populations-là connaissaient déjà très bien le territoire et la façon de bien l'exploiter.
Alors, on y venait ici pour la ressource qui était disponible dans le pourtour du Golfe, dans le maritime, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. On peut facilement imaginer qu'il y a eu plus qu'une population occasionnelle, saisonnière.
C'est dur à dire parce qu'en même temps, il y a très peu de traces. Très peu de traces concentrées. On a des petits sites archéologiques un peu partout sur l'archipel, des endroits où on sait qu'il y a peut-être eu des campements ou des restants de feux de camp, par exemple, quelques restants de flèches.
De poteries aussi qui pourraient quand même...
Exceptionnellement, c'était une population de chasseurs-cueilleurs, donc ils voyageaient très légers. Les traces matérielles de leur présence sont relativement éparses. Et en plus, s'ils campaient proche de la côte, c'est sûr que l'érosion a fait le travail de faire disparaître énormément de témoignages.
Mais Raphaël, est-ce que la tradition orale aurait permis de garder des traces?
Les fameuses histoires de colporteurs qui venaient, par exemple, de l'île du Prince-Édouard, les vendeurs de paniers d'osier.
Oh oui.
Ça, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup, que supposément, effectivement, qu'il y avait des Micmacs, donc, qui faisaient la traversée par leur propre façon, qui venaient carrément avec les bateaux postaux, par exemple, puis qui débarquaient aux îles pour venir vendre, par exemple, des paniers en osier, qui est probablement ce qui est le plus resté dans la mémoire des Madelinos, mais on peut s'imaginer qu'ils faisaient le rôle de marchand colporteur. On n'a pas beaucoup de traces tangibles de tout ça. Il y aurait probablement des recherches historiques intéressantes à faire auprès des communautés Micmac de l'île du Prince-Édouard. S'il y a des archives, par exemple, qui ont été gardées, des billes sur des bateaux, des billes de passage, des choses comme ça, il y aurait peut-être une recherche historique plus profonde là, qui pourrait être faite sur ce sujet-là en particulier. Oui, il y avait une présence autochtone aux îles, même après l'arrivée des Acadiens. Et on sait, par les registres, on sait par certaines recherches administratives aussi qu'il y avait donc des gens qui ont été, par exemple, des Mi'kmaq qui ont été baptisés ici aux îles de la Madeleine. Et donc, il y avait une présence autochtone quand même. Mais au 19e siècle, évidemment, le fait d'être autochtone, ce n'était pas nécessairement une source de prestige. Et donc, on peut très bien s'imaginer que ça a été occulté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, même si on se souvient qu'il y en avait qui venaient, on ne se souvient pas nécessairement de la nature des contacts qu'il y a eu entre les Acadiens des îles de la Madeleine et les Autochtones au 19e et même au début du 20e siècle.
Du côté du Havre-Robert, il y a la fameuse source à Schlabaye.
Ça, Schlabaye, Schlabaye. Oui, le garçon de Sheila. Une belle histoire de la tradition orale et qui, justement, nous donne, c'est ça qui est merveilleux avec des histoires comme celle-là. On ne peut pas statuer avec certitude que le personnage a réellement existé, parce qu'il existe dans la tradition orale. C'est fort possible, c'est fort probable, et donc on peut quand même affirmer que c'est un personnage qui est certainement inspiré d'une réalité historique. Et d'autant plus que on sait qu'il y avait des Autochtones à la baie Malpec, sur l'île du Prince-Édouard, des Mi'kmaq, qui venaient et avaient déjà des contacts avec les Acadiens, parce qu'il y avait déjà des Acadiens dans ce coin-là. C'est d'ailleurs probablement les Mi'kmaq qui ont permis aux Acadiens sur l'île du Prince-Édouard, certains Acadiens, de se cacher des troupes du militaire Rollo, là, qui était débarqué sur ordre de Lawrence à l'île du Prince-Édouard pour éclairer les Acadiens pour éventuellement les déporter. On sait qu'il y a eu des Acadiens qui ont réussi à se cacher. Et c'est clair que ces Acadiens-là qui ont réussi à se cacher à ce moment-là ont été aidés par les Mi'kmaq. Et on sait aussi que les premiers engagés de Gridley venaient beaucoup de l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est sûr qu'il y avait peut-être des liens qu'on ne soupçonne pas entre la communauté Mi'kmaq à l'île du Prince-Édouard et les Acadiens qui sont éventuellement venus s'établir aux îles de la Madeleine.
Je suis allée sur cette fameuse source Schlabaye. Lorsqu'on y arrive, on voit nettement l'utilité de cette place. Comment on pouvait provenir, du côté d'Havre-Robert toujours, du Cap-Breton, en canot, dans des baies, dans des barachois. Non seulement le climat, mais le territoire était prédisposé à recevoir des embarcations.
C'est pas pour rien que l'endroit s'appelle Portage du Cap. Je l'imagine moins aujourd'hui à cause de la terre, le marécage, s'est implanté, puis a fait peut-être disparaître un peu la géographie particulière du site qui était donc très favorable à passer du bassin jusqu'à la baie de Plaisance.
Extrêmement favorable. Est-ce que vous avez aussi entendu des histoires quand on parle des fameux remèdes? J'ai parlé à quelques Madelinois, puis ils disaient, ah, ça là, je pense que ma grand-mère, elle avait pris ça d'un Amérindien.
Ben oui, c'est vraiment là une filiation culturelle qui est passionnante et qui nous amène aussi à la question de l'identité autochtone même ici aux îles, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui s'en revendiquent. C'est un dossier qui est passionnant puis qui est plein de nuances, parce que à la fois, on pourrait dire que c'est un peu spécial pour des Acadiens de revendiquer une identité autochtone, une identité Mi'kmaq, mais que d'un autre côté, il y a quand même des sources qu'on soupçonne mal, des sources qui sont mal documentées. Quand on parlait de l'importance des historiens puis des anthropologues tout à l'heure, si on veut faire la lumière dans ce dossier-là, il faut être capable d'aller tracer la part autochtone de nos racines. Et probablement que ça va nous amener dans des sentiers qu'on ne soupçonne même pas. Même si on n'est peut-être pas nécessairement un groupe qui s'identifiait comme autochtone, probablement qu'on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup, autant dans les techniques de chasse et de pêche que justement les remèdes et toute l'utilisation de la faune et de la flore pour la survie. C'est clair qu'il y a un héritage là qui mérite d'être mis en lumière. Un métissage aussi peut-être qui est plus important qu'on soupçonne, parce que c'est sûr qu'avec les éléments qu'on a actuellement, c'est dur d'affirmer ça. Ça, et de l'affirmer devant le tribunal de l'histoire, si on veut, et même souvent devant les vrais tribunaux. Je dirais beaucoup de recherches sérieuses à faire là-dessus. Il faudrait carrément une histoire des Autochtones aux îles, de mettre en commun toutes ces histoires de tradition orale-là, les recherches archéologiques qui ont été faites aussi, entre autres par Moira McCaffrey, qui est venue ici coordonner des relevés archéologiques, des budgets qui permettraient une recherche scientifique sérieuse. Il y a sûrement aussi beaucoup de mises en commun qui doit être faite. Par exemple, des différents... Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs aux îles, des gens qui ont ramassé beaucoup de petits trésors à gauche et à droite.
Il y a beaucoup de mini-musées.
Il y a beaucoup de mini-musées, puis il y aurait un grand chantier à faire là qui nous permettrait enfin d'avoir une meilleure vision des choses. Puis ça nous permettrait aussi probablement de réparer des ponts qu'on peut avoir avec notre passé et avec une certaine vision qu'on a des Autochtones. Et c'est des enjeux qui pourraient paraître superficiels au premier regard, mais en réalité, c'est intimement imbriqué dans notre actualité. On a juste à penser aux questions de droits de pêche. Hein, quand on rentre dans ce dossier-là avec les droits autochtones par rapport à ça, c'est vraiment un dossier brûlant d'actualité. Je pense pas qu'on peut facilement prendre position là-dedans, nous, en tant que Malolino. D'un côté, des pêcheurs, on les comprend. On veut protéger les droits acquis. On veut pas créer des zones d'ombre dans la législation qui pourraient ouvrir des boîtes de Pandore.
Hein? Des précédents.
Mais d'un autre côté aussi, c'est clair qu'on a probablement une dette de mémoire, une dette d'héritage envers les Autochtones. Et donc, on a, d'après moi, le devoir de ne pas balayer leurs revendications du revers de la main, au moins de s'y intéresser et d'essayer de comprendre notre place là-dedans et la place des îles dans cette réalité contemporaine-là.
Raphaël Turbide, merci.
Ça a été un plaisir.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci pour vos nombreux commentaires. Ici Michel Landry, je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre de la série « Le monde change » la semaine prochaine.